ça fait plaisir de pouvoir échanger avec les gens et voir aussi que ça leur parle ou on se sent moins seul. Moi, je me sens moins seul, eux, ils se sentent moins seuls. Voilà, on échange vraiment sur des sujets profonds, quoi. Là, c'est sur l'enfance, c'est sur le passage à l'adulte, sur la scolarité et sur la pression parentale. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'on a tous plus ou moins vécu. Voilà, qu'on soit bon ou mauvais, on l'a quand même plus ou moins vécu.
Jim Bishop est venu à la librairie L'Hydragon à Niort pour une séance de dédicace à l'occasion de la sortie de son dernier album L'Enfantôme, paru chez Glénat. Pour son auteur, ce troisième album signe la fin d'un cycle. C'était l'occasion pour lui de revenir aussi sur les deux autres albums que sont L'Être perdu et Mon ami Pierrot. L'Enfantôme, le dernier album de Jim Bishop, un reportage signé Explore le Mag. À la prise de son et au mixage, Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.
Bienvenue sur Explore le Mag. Bonjour, je m'appelle Jim Bishop. Je suis auteur de L'Être perdu, Mon ami Pierrot et dernièrement L'Enfantôme. Du coup, je suis venu à Niort, à la librairie L'Hydragon. Et on vient de finir une dédicace, là, une séance de dédicace. Et ça s'est super bien passé. Les gens étaient contents. Et ouais, je suis rincé, je suis fatigué, mais je suis content aussi. Donc ouais, c'était chouette. La séance de dédicace, en fait, c'est ce qui est agréable, c'est que c'est les gens qui viennent, qui ont des questions sur les livres, qui peuvent être parfois mystérieux, ou alors qui proposent des symboliques, comme L'Enfantôme. Il y a des symboliques qui font que les gens n'ont pas toujours compris, même s'ils apprécient l'émotion ou quoi, mais ils ont besoin d'avoir des réponses. Du coup, c'est ces moments-là où on peut apporter ça. Ou alors des gens qui partagent juste leur ressenti, qui parlent d'autres livres aussi, voilà, et du coup, ouais, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec les gens et voir aussi que ça leur parle ou on se sent moins seul. Moi, je me sens moins seul, eux, ils se sentent moins seuls. Voilà, on échange vraiment sur des sujets profonds, quoi. Là, c'est sur l'enfance, c'est sur le passage à l'adulte, sur la scolarité et sur la pression parentale. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'on a tous plus ou moins vécu. Voilà, qu'on soit bon ou mauvais, on l'a quand même plus ou moins vécu. La pression parentale, le souci de la réussite. Et voilà, du coup, là, c'est abordé dans cette bande dessinée sur le prisme des fantômes, de l'horreur, etc. Et voilà, ça peut dérouter par moments certaines personnes. Alors l'histoire, c'est trois enfants qui sont considérés comme les pires cancres de l'école. Et en fait, ils vont avoir un contrat avec un conseiller d'orientation qui va leur dire qu'il va falloir qu'ils réussissent leur année. Sinon, à la fin de l'année, leurs parents vont les tuer, littéralement. Et du coup, ça commence comme ça, où les gamins n'y croient pas. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que les parents, ils deviennent bizarres. Et là, du coup, on va les suivre dans cette aventure qui devient de plus en plus horrifique. Et voilà, après, je peux pas en dire plus, mais voilà, ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Il y a des gens qui l'avaient lu, il y a des gens qui l'avaient pas lu, qui étaient attirés par le pitch ou par les dessins. Et les gens qui l'avaient lu, ouais, parfois, ils me disaient que bah, ils avaient vraiment vécu ça. Même des gens dont on n'est pas la même génération du tout, ils me disaient, ouais, j'ai connu ça, j'ai connu la pression des parents, la pression scolaire, le fait de devoir avoir un rendu, d'être performant ou d'être ouais, toujours, comment dire, ouais, sur une performance de notes, de devoir, voilà. Et des pressions sociales, en fait, ça crée de la pression sociale, puis ça crée aussi des fonctionnements qu'on a, qu'on peut poursuivre quand on est adulte, de compétition, etc. C'est ça que ça crée, enfin, en tout cas, dans ce que moi j'écris dans ma BD, quoi. Voilà, c'est un peu cette idée-là que j'essaie d'explorer. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu rentres pas là-dedans? Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu te fais avoir par cette pression-là, quoi? Quel adulte tu deviens, quoi? En vrai, moi, j'ai cédé à un moment donné dans ma vie. Pendant des années, je me dis, OK, alors mes rêves, je vais les mettre de côté, je vais rentrer dans ce qu'on dit le moule, quoi. Mais moi, pendant des années, je me suis dit, bah, OK, j'accepte de faire partie du moule. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit que c'était pas, enfin, c'était physique, quoi. J'avais vraiment envie de faire autre chose. La bande dessinée, c'était vital. Je sentais dans mes tripes que si je faisais pas ça, je pense que ça aurait été compliqué de vivre. Et du coup, voilà, je me suis donné pour réussir, essayer en tout cas de faire ce que j'avais envie de faire, raconter des histoires. Et ouais, ça n'a pas été facile en vrai. Pas facile comme parcours en ce moment-là, quoi, de décider ça. C'est fictionné encore une fois, mais c'est vrai que ça, ça parle de le moment où moi j'ai commencé à faire de la BD, où j'ai voulu continuer une BD que j'avais lue et que j'avais pas la fin, et du coup j'ai inventé ma propre suite et j'ai fait des pages et des pages, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la BD en réalité. Et après j'ai jamais arrêté, voilà. Si je parle vraiment du moment où j'ai commencé la BD, ça va faire bientôt, ouais, j'avais 12 ans, 11 ans quand j'ai commencé, j'en ai 39 aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir la même émotion, la même manière d'aborder la bande dessinée, quoi. Sauf que c'est plus professionnel maintenant. Ça peut partir d'un personnage, ça peut partir d'une idée, et après t'écris et tu brodes, en fait. Et moi maintenant, je vois la BD vraiment comme du modelage. T'as vraiment une base, et puis tu modèles, et puis ça prend forme au fur et à mesure. Voilà, et même jusqu'à la fin, tu peux rajouter des derniers trucs, tu vois, les dialogues, tu peux changer à la fin, qui peuvent changer d'intention, qui peuvent changer beaucoup de choses, en fait. Et ouais, la bande dessinée, je passe de l'écriture au dessin, à l'inverse, au storyboard et machin, ça rebondit, en fait. C'est beaucoup de... Finalement, c'est très organique, ma manière d'écrire, mais je structure beaucoup. C'est là où, par contre, je me prends la tête, c'est sur la structure pour modeler autour, quoi. Et ça, pour moi, ouais, c'est... Enfin, du coup, j'en parle de manière très organique, mais en vrai, les choses, elles sont cadrées dans ma tête. Il faut avoir un cadre, pour moi, des contraintes, du coup, une structure. Sinon, après, ça peut vite devenir une œuvre qui part dans tous les sens. Pour moi, c'est important de structurer pour savoir ce que tu veux raconter, où tu veux aller. Et puis après, pouvoir t'amuser, en fait, à te lâcher à des moments et tout. Mais d'avoir un cadre pour pouvoir faire évoluer tes personnages. C'était Tezuka, dans un de ses livres, il montrait une bonne structure narrative. C'était comme un tronc. Tu vois, un tronc d'arbre, et après tu mettais des branches partout comme ça. Et pour lui, une mauvaise structure, c'était plein de troncs d'arbres. Et après, c'est une histoire qui va dans tous les sens. Alors que quand t'as un tronc bien fait, bah en vrai, c'est solide, quoi. Je trouve que les Japonais, ils ont une manière de raconter l'émotion qui, moi, me parle beaucoup, c'est qu'ils l'exagèrent. Mais du coup, elle touche plus vite, elle est plus efficace. Et elle n'est pas forcément intellectualisée. Et moi, c'est ce que j'aime dans une lecture, c'est de voir ressentir des émotions et de voir suivre un personnage dans son parcours, quoi, dans son évolution. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et ce que font, pour moi, très bien les Japonais. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Et du coup, c'est ce que j'essaie de reproduire en amenant aussi ma part franco-belge. Voilà, en faisant des bouquins en couleur dans un format franco-belge, mais en mettant... Toutes ces dimensions émotionnelles, quoi. Mon ami Pierrot, c'est tiré d'une comptine. Et en fait, cette comptine, elle a un double sens. Une vision très enfantine qu'on chante. Mais si tu vas décrypter le fond, la symbolique de ce que ça représente, c'est pas forcément des inspirations directes. Mais par exemple, le lapin, c'est vrai que c'est la même idée d'emmener quelqu'un dans un autre monde et lui faire ouvrir l'esprit sur autre chose. Et c'est un peu une référence qu'il y a dans Matrix aussi, d'ailleurs. Mais c'était pas du tout des refs conscientes. Mais ouais, il y a ça. Et en fait, là, c'était plus pour parler du fait de vouloir aller dans un autre monde qui nous attire et d'en être déçu. D'être amoureux de quelqu'un et d'en être déçu. En fait, ça parle aussi de déception. Après, c'est beaucoup plus adulte que ce que c'est. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça aussi. C'est pour parler de ça, le passage au moment où t'es déçu, en fait, de plein de choses, et t'es déçu, bah, de l'amour, t'es déçu de tes aspirations, t'es déçu de tes rêves, et ça n'empêche que tu peux quand même les garder en toi et juste les vivre différemment, quoi. Et c'est ça aussi dont parle Pierrot, c'est le personnage qui à un moment donné se dit, ok, pour atteindre mes rêves, en fait, c'est complexe, mais j'ai quand même envie d'y aller, et du coup, bah, tu fais des choses et tu y vas, quoi. Être libre, ça demande des sacrifices, en fait. Tu peux pas tout faire, en fait, dans la liberté. La liberté, ça veut pas dire que tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu fais un choix, en fait, qui est conscient, mais du coup, ça t'enlève. En fait, tu prends un chemin, en fait. C'est ça, pour moi, la liberté. Tu prends un chemin que tu as choisi. Du coup, bah, ça t'enlève d'autres choses. Et c'est ça, l'apprentissage que le personnage. Parce qu'au début, on dit, ouais, tu peux tout faire et tout. Bah non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et ça, c'est un truc d'enfant pour moi, de se dire, ah, je rêve et tout. Et voilà. Et oui, effectivement, le personnage, la liberté dans cette histoire, c'est une autre forme de prison. Moi, je voulais surtout parler d'une histoire d'amour. Et en réalité, moi, Cléa, c'est beaucoup moins, en fait, aussi. Beaucoup moins comment je percevais la vie. Mais après, j'avais d'autres inspirations, qui fait que je voulais me détacher des persos. Du coup, j'en ai fait un personnage féminin, parce que c'est une inspiration aussi qui est personnelle. Mais j'avais pas du tout d'ambition féministe ou ce genre de choses. Moi, je voulais juste raconter une histoire d'emprise tout simplement qui peut arriver à plein de gens en fait. Une histoire d'emprise, mais aussi une histoire d'émancipation aussi. Parce que c'est ça la finalité pour moi, c'est tu t'échappes en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu, t'es dans le déni et du coup tu restes bloqué à un moment de ta vie où tu veux pas évoluer parce que t'es confortable et puis en fait tu te rends compte que grandir, c'est accepter qu'il y ait un changement dans ta vie, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et ouais, du coup, bah, ça part aussi pareil d'un truc très perso, quand j'ai perdu ma mère, où moi, j'étais en mode, ok, genre là, en fait, je vais devoir me responsabiliser maintenant, tu vois. Genre, beaucoup plus émotionnellement, tu vois. Alors qu'avant, c'était un pilier et tout, c'était énorme dans ma tête. Et là, il n'y a plus ça, tu vois. Et du coup, tu te rends compte que, bon, bah, il faut avancer, en fait. Mais ça prend un certain temps, tu vois, avant de capter ça. Et d'ailleurs, il y a aussi le pélican qui dit oui tout le temps et qui dit plus, qui parle plus en fait à partir de là. Parce que le pélican, il sent plus une forme de conscience qu'il a autour de lui. Il dit oui parce qu'il veut le satisfaire dans son imaginaire et dans ses fausses croyances en fait. C'est un peu ça aussi que ça raconte. Tu vois, dans le deuil, il y a plusieurs émotions. La colère, elle en fait partie. Et en fait, Frangine, elle représente la colère et du coup, un deuil pas accompli, tu vois. Et c'est pour ça que là, cette fin tragique aussi, parce que ça parle justement de pas réussir à faire le deuil. Et du coup, c'est une mort de quelque chose, tu vois. Quand t'arrives pas à faire un deuil, tu restes en colère. Il y a des gens qui restent en colère toute leur vie, quoi. Et bah, c'est douloureux. Elle accumule, en fait, des deuils, d'avoir été viré, d'avoir été rejeté. Et il y a d'autres choses qui sont plus cachées dans l'histoire, que je voulais pas forcément mettre en évidence, mais qui sont là. Et ouais, du coup, c'est un personnage qui reste en colère, quoi. Et du coup, qui souffre, en fait. Au début, on a l'impression qu'il y a un des deux persos qui va avoir plus de facilité à être libre et à avoir du charisme et tout. Mais ouais, effectivement, c'est ça, c'est un miroir inversé, en fait. C'est deux persos qui ont une finalité tout à fait différente. Il y en a un qui a accepté et un autre non, tu vois. C'est trois bandes dessinées, en fait, c'est vraiment trois pans de ma vie. Vraiment très important, où moi personnellement je pense avoir grandi aussi en les faisant, sur trois sujets qui étaient trop importants pour moi, qui sont sortis maintenant de moi, qui m'appartiennent plus quelque part, et là maintenant j'ai l'impression que j'ai le droit de m'amuser un peu plus là. Ouais, ça sera très différent je pense la suite, j'ai juste hâte de savoir où je vais. Voilà, j'ai une idée mais ça reste encore à définir, mais je pense que je sais, faut juste l'éclaircir un peu plus. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, surtout. C'est vraiment là où je suis actif, Bishop Jim. Et puis sinon, ben, achetez mes BD. Merci à toi, du coup.
C'était L'Enfantôme, le dernier album de Jim Bishop, un reportage signé Explore le Mag. À la prise de son et au mixage, Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.